Bonjour chers auditeurs de Radio Shalom, au micro Ilan Rosanquier qui est heureux de vous présenter un nouveau numéro de Chronique pour la paix. Hier, après la poussée de fièvre de dimanche dernier, le calme relatif mais précaire semble être revenu sur la frontière nord en Israël. On se souvient que suite à la liquidation du chef militaire du Hezbollah, intervenu le 30 juillet dernier, des mesures de rétorsion avaient été annoncées par le Hezbollah et elles sont intervenues ce dimanche où un tir de barrage est intervenu de 200 roquettes et qui a provoqué également une des mesures de préventive de l'aviation israélienne qui a supprimé plusieurs centaines de bases de lancement. Et ainsi donc, on retrouve une situation « normale » entre guillemets, anormalement normale, où à une attaque du Hezbollah répond une attaque d'Israël, et ce jeu-là dure déjà depuis plusieurs mois. Mais ce qu'on oublie peut-être, c'est que le nord d'Israël, s'il est un lieu d'affrontement dont on parle beaucoup en ce moment, est aussi un lieu de vie, et c'est de cela que nous avons choisi de parler aujourd'hui, avec Yann, qui est résident à Kfar Vradim. Yann, vous m'entendez ?
Parfaitement.
Bonjour Yann, merci Bonjour. D'être en direct avec nous. Donc vous êtes résident de Kfar Vradim. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez situer pour nos auditeurs où se trouve Kfar Vradim ? À peu près.
Kfar Vradim se trouve en face de Mahalot, à 20 minutes de Naharia, et à peu près entre 11 et 12 kilomètres de la frontière du Liban, précisément.
D'accord. Donc vous êtes proche de la frontière, mais vous ne jouxtez pas la frontière. Est-ce que vous faites partie des localités qui ont été évacuées ?
Non, on a cette chance de ne pas avoir été évacués, puisque, si je ne me trompe pas, toutes les localités, Shlomi par exemple, qui est à la frontière même, je crois que c'est entre 0 et 4 kilomètres, toutes les localités, elles, ont été, on a demandé aux gens de partir. Nous ici, on est un petit peu, j'allais dire quelque chose d'un peu particulier, un petit peu en retrait, même si on est très près de la frontière, puisque on entend régulièrement d'où je suis, alors pas aujourd'hui, pas hier non plus, mais on entend régulièrement des alertes et des alarmes de villages qui sont à côté, puisque Kfar Vradim est un petit village de quand même 7500 habitants à peu près. Je crois que c'est un peu plus, et entouré de druzes, de villes druzes, de villes arabes, de villes chrétiennes. Donc voilà, tout le monde est un petit peu aux aguets, tout le monde regarde ce qui se passe, mais effectivement, malgré les événements, on a cette chance, et de ne pas avoir eu beaucoup d'alertes depuis le début du conflit.
D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a une partie de la population de l'agglomération qui a quitté l'agglomération pour se réfugier vers le centre, ou la majorité de la population est restée ?
Tout le monde est resté à Kfar Vradim, à ma connaissance, sauf peut-être certains, mais j'ai pas connaissance qu'ici à Kfar Vradim, les gens aient bougé, puisque de toute façon, c'est pas facile de quitter sa maison, premièrement, parce que c'est sa maison, premièrement. Deuxièmement, on sait pertinemment aussi que le centre, beaucoup de gens du sud sont montés vers le centre, donc c'est pas facile de trouver un endroit pour se réfugier, entre guillemets, si on peut exprimer utiliser cette expression. Et de toute façon, on se sent rassuré, malgré les apparences, quand on est dans son biclap, plutôt que de se trouver sur la route avec une alerte. Voilà.
Mais je suppose qu'une partie de la population de Kfar Vradim travaille à l'extérieur, voire même au centre du pays. Est-ce exact. Que la situation perturbe un petit peu le mode de vie habituel, les activités professionnelles de la population ?
Moi, ce que j'en sais, pas trop, parce que les Israéliens, moi je suis né en France, donc les Israéliens sont extrêmement résilients, et leur vie, malgré les apparences, ils vivent normalement. Ils vivent avec, malheureusement, on vit avec cette pression journalière, puisqu'on se demande, dès qu'il y a un petit bruit, on dit tiens, il va se passer quelque chose. J'ai des amis qui, eux, vont sur Haïfa, ils vont sur Tel Aviv, qui travaillent, qui reviennent, j'allais dire quasiment normalement. Voilà, quasiment normalement.
quoi. Donc en fait, on retrouve un petit peu dans le nord ce qu'on retrouve en d'autres endroits d'Israël, c'est-à-dire des réalités différentes entre Kfar Vradim, qui veut dire le village de Rose, un nom particulièrement champêtre, un petit peu perturbé dans la région, et d'autres localités plus proches de la frontière, qui sont quasiment totalement évacuées et qui vivent, qui connaissent une situation beaucoup plus difficile que la vôtre.
C'est vrai, ce qui est extraordinaire, et encore une fois, pour utiliser un terme un petit peu fort, mais la différence entre Kfar Vradim et Shlomi, c'est pas 50 kilomètres, c'est quelques kilomètres. Et eux ont été évacués, et nous, on a cette chance de pouvoir rester. Et d'ailleurs, je pense que s'il devait y avoir une augmentation du conflit, je pense que l'armée, à un moment, nous demandera peut-être de partir. Mais pour l'instant, personne ne part. Effectivement, personne n'est parti. Ou peu de gens, nous.
Alors, dans quelques jours, encore pour les conditions de vie, c'est la rentrée scolaire. Comment ça se présente dans votre agglomération ?
Ben, on ne sait pas trop. On se pose la question. Tout le monde se pose la question. Est-ce qu'il y aura... Pour l'instant, rien n'a été changé, puisqu'on reçoit fréquemment des informations de la mairie, entre guillemets, de Kfar Vradim, qui nous dit que tout va bien. On a des informations permanentes de ce qui se passe, parce qu'il y a une alerte, des événements. Et là, à aujourd'hui, on n'a pas eu reçu de message comme quoi il y aurait des modifications pour la rentrée des classes le 1er septembre.
Alors, donc là aussi, une illustration du fait qu'à quelques kilomètres de distance, on peut vivre sur une planète totalement différente. Il y a eu une réunion avec le ministre de l'Éducation nationale hier entre des responsables des conseils régionaux du Nord, en particulier du conseil régional de Maaseh-Achère, donc qui est proche de Shlomi, Mahalot, Tarshiha, Kibbutz Yerkiam, qui ont annoncé qu'ils ne pourraient pas faire de rentrée scolaire alors que la sécurité des enfants n'est pas assurée, et qui reprochent au gouvernement d'abandonner un peu le nord du pays. Est-ce que c'est ce sentiment d'abandon ?
Oui, exactement. Je vous en prie. Ça, c'est vrai. Ça, il y a un sentiment d'abandon, puisqu'on le voit sur d'autres sujets, le côté travail, médical, là, c'est vraiment un abandon, puisqu'on sait aussi que l'attaque qu'il y a eu du Hezbollah a été contrée par l'armée Tsahal, avec force, à juste titre, mais d'après ce que moi j'ai entendu dire, que cette contre-attaque a été aussi prévue, puisqu'on sait pertinemment que le Hezbollah voulait attaquer Tel Aviv. J'espère que ça aurait été pareil s'il n'y avait pas Tel Aviv qui avait été visé. Voilà. Donc, mais effectivement, vous avez raison. Je ne savais pas ce que vous venez de me dire. Mais merci pour l'information. C'est gentil. Je ne savais pas. Puisque mon hébreu n'est pas exceptionnel. Et je n'étais pas au courant de cette information. Mais voilà. Donc, effectivement, le Nord a toujours été un peu à l'abandon, ce qu'on appelle la périphérie, vous savez. Pour d'autres sujets. Voilà, pour le travail, pour Jésus, c'est toujours. On a vraiment l'impression d'être les enfants, pas les enfants maudits, mais on n'a pas l'impression de vivre dans le même pays que les gens qui sont au centre du pays. Vraiment.
Mais on a vraiment l'impression, enfin, au niveau de vos collègues, vos amis, il y a vraiment cette impression qu'en fait, tant que ça concerne le Nord, débrouillez-vous, et que les interventions du gouvernement, y compris sur le plan sécuritaire, se font surtout lorsque c'est le centre, Tel Aviv et autres qui sont visés. C'est vraiment un sentiment qui est éprouvé par la population.
J'espère me tromper, j'espère qu'on se trompe, parce que c'est la première fois qu'il y a une attaque comme ça, aussi importante. Je vais vous dire une chose grave, mais on verra la prochaine, j'espère qu'il n'y aura pas de prochaine, et on verra si la réaction de l'armée sera la même. Moi, à titre personnel, je pense que oui, mais c'est le sentiment qu'on a d'être un petit peu oublié, vraiment.
Et est-ce que vous pensez, ou vous ressentez, ou vous avez l'impression en fait que cette guerre d'usure avec le Hezbollah finalement est utilisée un petit peu par le gouvernement actuel pour jouer avec, pour équilibrer un peu le conflit sur Gaza et surtout pour créer une situation qui lui permet d'éviter de faire le bilan de ce qui s'est passé le 7 octobre et de pouvoir rester encore plus longtemps au pouvoir?
Alors, je reprendrai vos paroles. Est-ce que l'attaque du Liban compense celle qui se passe à Gaza? Je crois pas. Mais par contre, que le fait que le gouvernement trouve cette situation plutôt confortable, oui. Puisque de toute façon, on sait très bien que les responsabilités du gouvernement sont extrêmement importantes. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé le 7 octobre, même si on a eu des excuses, je vais dire, à travers un message télévisé de la télévision, à la télévision, pardon. Il est sûr que on arrive à un système aujourd'hui où le Premier ministre Netanyahou devrait comprendre qu'à un moment, quand on était Premier ministre pendant des années et que on n'a pas forcément une vision du pays et qu'on ne pense qu'à soi, je pense qu'à un moment, il faut que les gens arrêtent. Je pense qu'ils devraient arrêter. D'accord, okay, parce que ces décisions, malheureusement, ne sont pas toujours très bonnes. Elles sont même très néfastes. Alors après, ce qui se passe à Gaza, c'est différent. On ne peut pas comparer le conflit avec Gaza et le conflit avec au Liban, parce que, je vais utiliser une expression que je n'ai pas l'habitude de dire, grâce à Dieu, au Liban, il n'y a pas d'otages. Et par contre, à Gaza, il y en a toujours. Et la priorité, c'est ça. La priorité, c'est vraiment de récupérer les otages. J'espère qu'il en reste. Mais j'ai un doute quand même. Voilà, aujourd'hui, ils en ont sauvé un, je sais. Mais je dis, la situation aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui au Liban n'est pas du fait d'Israël, puisque je rappelle quand même que le 8 octobre, c'est le Hezbollah qui a décidé d'attaquer Israël. Donc là, on peut dire qu'Israël se défend, d'accord? Mais c'est un jeu ping-pong, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est un coup c'est toi, un coup c'est moi, un coup c'est toi, un coup c'est moi, un coup c'est toi, un coup c'est moi. Mais en réalité, on ne se bat pas contre le Hezbollah. On se bat contre un conflit contre l'Iran, à part personne interposée.
Alors, justement, on a l'impression, certains réclament une intervention plus ferme de Tsahal au Liban, considérant que la situation ne peut pas durer encore très longtemps comme cela, puisqu'il y a quand même autour de 60-70 000 Israéliens du Nord qui ont été obligés de quitter leur habitation. Donc, quelque part, on est en train de perdre une partie du pays. Est-ce que la population sur place a l'impression que Tsahal devrait rentrer au Liban pour éloigner le Hezbollah de la frontière?
Moi, la réponse, la mienne, je vous donne ma réponse à moi. D'accord. Et la réponse est oui. Je pense que Tsahal devrait faire le nécessaire, mais ce n'est pas facile à faire, puisqu'il y a une pression internationale qui, on sait pertinemment, je ne sais pas, mais je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on se doute que si Tsahal devait rentrer au Liban, il y aurait des ripostes beaucoup plus grandes et du Hezbollah, et on peut imaginer un conflit régional. Je pense que tout le monde aujourd'hui essaye de minimiser un peu les choses, de faire en sorte que on ne va pas trop loin sans aller loin, d'accord. Voilà, ça risque de durer longtemps comme ça, mais effectivement, il y a un moment où ce conflit, de toute façon, sera inévitable, puisque les gens du Nord n'arrivent pas à dormir tranquillement, ont dû quitter leur maison. C'est pas possible. On peut pas demander à des gens de quitter leur maison. C'est pas possible. C'est quelque chose qui est inimaginable.
Bien entendu, mais est-ce que l'on peut considérer qu'une intervention militaire, entre guillemets, serait capable de résoudre le problème, même si on bat le Hezbollah et qu'on revient ensuite à l'intérieur d'Israël? Il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait pas une reconstitution des forces du Hezbollah, comme il y a eu pour le Hamas ou comme ça se passe même en Cisjordanie dans les territoires occupés, et que donc, pour arriver à un calme relatif, on est obligé d'arriver à un compromis politique avec le Liban, éventuellement avec d'autres puissances régionales, puisqu'on ne peut pas occuper le Liban en permanence.
Non, c'est quand on fait une attaque préventive, il y a un moment où, de toute façon, après la guerre, on ne peut faire que la paix. Donc il y a un moment où, forcément, il faudra que des gens de part et d'autre, d'accord, je dis bien de part et d'autre, accepte de se mettre autour d'une table et de dire maintenant ça suffit, maintenant on va discuter. Mais malheureusement, ces gens-là aujourd'hui ne sont pas présents. Il n'y a pas ces gens-là aujourd'hui. C'est un problème de génération peut-être, c'est un problème d'histoire, mais à un moment, il faudra de toute façon faire ça. Il faudra à un moment que ça s'arrête. Est-ce que ça s'arrêtera rapidement? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un conflit? C'est pas un conflit que territorial. C'est aussi un conflit aussi de religion. Il faut dire la vérité aussi. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait quand même pas mal de temps que cette guerre existe, que ce conflit existe, cette haine s'installe, et on arrive à un conflit qui de toute façon doit s'arrêter à un moment par les négociations. On ne peut pas continuer à se battre avec des gens et qu'il y ait de part et d'autre des morts. Voilà.
Mais donc, s'il doit y avoir négociation et accord politique, ça implique qu'il y ait des ça impliquerait qu'il y ait des concessions de part et d'autre. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement israélien est prêt à faire des concessions pour arriver à un calme relatif dans la région?
Alors, aujourd'hui, non. Je pense que si, objectivement, même si je ne porte pas ni Netanyahou dans mon cœur, d'accord, je pense que de toute façon, aujourd'hui, il aurait tort de le faire. D'accord ? Il aurait tort de le faire parce que ça voudrait dire que négocier aujourd'hui avec un pays qui a décidé de détruire Israël, c'est se tirer une balle dans le pied, quoi. D'accord ? Donc il faut régler ce problème du Hezbollah, parce que le problème, ce n'est pas le Liban. Le problème, c'est le Hezbollah. Moi, je connais quelqu'un qui vit au Liban, qui est en relation avec un ami à moi, et qui me dit « Nous, Libanais, on ne veut pas la guerre. Nous, Libanais, on ne veut pas la guerre. » Le problème, c'est le Hezbollah, ce n'est pas les Libanais. C'est ça le problème. Et donc, tant que le Hezbollah sera présent au Liban, malheureusement, ça va être difficile de se mettre autour d'une table avec ces gens-là. Quasiment impossible. Donc, tant que, et je ne vois pas pourquoi Israël ferait des concessions, même si, de toute façon, à un moment, quand l'interlocuteur sera plus clément et aura changé, à ce moment-là, évidemment, quand on parle de paix, on est obligé, à un moment, de faire des concessions, bien sûr.
Oui. Mais si Israël veut obtenir l'affaiblissement, à défaut de l'éradication totale, mais en tous les cas l'affaiblissement du Hezbollah, dans la mesure où le Liban en tant que tel, le gouvernement libanais, n'est pas à même de le faire, si Israël veut le faire sans occuper définitivement le Liban, il est obligé de s'appuyer sur le gouvernement libanais qui sera en place à l'époque et sur d'autres puissances régionales. Ce qui implique donc d'arriver à un accord politique qui inclut quelque part aussi des concessions sur la dimension palestinienne. Vous n'avez pas cette impression ?
Oui, c'est évident. Oui, l'un va avec l'autre. Hein. L'un va avec l'autre. C'est un tout. C'est un tout, bien sûr.
Et effectivement, les éléments sont liés, et même si actuellement donc la situation est tendue, on peut avoir l'impression qu'un certain nombre de rodomontades de la part des extrémistes extrêmes du gouvernement israélien, de Ben-Gvir et compagnie, avec la mosquée qu'il veut, la synagogue pardon, qu'il voudrait voir construite sur le mont du Temple, avec l'ébranlement du statu quo, de ce qui avait été convenu avec la Jordanie, s'agissant toujours du mont du Temple et de Jérusalem, c'est pas de nature à faciliter une accalmie et une progression politique.
Je ne sais même pas ce que ces gens font au gouvernement. J'arrive pas à comprendre. Je ne comprends même pas qu'est-ce que ces gens font là. Ils sont là de temps en temps, on les voit de temps en temps à la télévision, avec un côté très arrogant, d'accord ? De temps en temps, ils balancent une information, construisent une synagogue, voilà, pourquoi pas Paris, pourquoi pas Londres, pourquoi pas aussi créer une synagogue, je sais pas, à la place du Capitole aux États-Unis, n'importe quoi. C'est vraiment, je veux dire que ces gens-là sont là non pas pour faire la paix, mais ils sont là pour attiser la haine. C'est différent. C'est différent, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Des gens comme ça, je sais même pas ce qu'ils font là, quoi. Franchement, ça me rappelle certaines personnes qui sont en France, qui attisent la haine contre les Juifs, et là-bas, c'est exactement dans le même moule, avec d'autres mots, avec une situation beaucoup plus grave, mais je comprends même pas, je comprends pas. J'arrive même pas à comprendre, voilà, c'est pas compliqué, voilà.
Alors, pour revenir au nord du pays, actuellement, votre agglomération reçoit-elle une aide du gouvernement pour résoudre un certain nombre de problèmes économiques? Ou vous avez l'impression, là aussi, d'être livré à vous-même?
Livré à nous-mêmes. À ma connaissance, il n'y a pas d'aide supplémentaire. On a les mêmes aides que tout le monde. Pas plus.
C'est-à-dire?
Pas plus. C'est pas parce qu'on est dans une zone de conflit, on peut dire ça, qu'il y a plus d'aide. Non, il n'y a pas plus d'aide que d'autres endroits d'Israël. Il n'y a pas plus d'aide. Non, on n'a rien de plus que ce que tous les Israéliens ont. Malgré le fait qu'on est dans une situation de risque. Il n'y a pas plus d'avantages, on n'a rien de plus, non.
Et cette situation de risque dans laquelle vous vous trouvez, est-ce que vous avez l'impression, de par les contacts que vous pouvez avoir, que quelque part elle remet en question l'attachement d'une partie de la population à cette région, que des gens envisagent de partir, parce qu'aujourd'hui ils ne sont pas évacués, mais peut-être le seront-ils demain, et que dans ces conditions, élever ses enfants, continuer à y vivre, c'est quelque part quelque chose qui n'a pas d'avenir?
Alors, moi, les contacts que je peux avoir sur Kfar Adim, entre autres, non, personne ne m'a dit ça. Les gens veulent rester. Voilà, c'est chez eux, et je ne vois pas pourquoi ils partiraient. Franchement, je ne vois pas pourquoi on partirait. C'est-à-dire, moi, j'ai une maison, les gens ont des maisons, ils ont leur vie ici, et si on doit partir, c'est que vraiment la situation nous l'impose. D'accord, l'armée nous demande de partir. Mais là, on en a parlé, on en a parlé entre nous à la maison. Mais à un moment, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Mais pour l'instant, la décision, c'est de rester ici, de faire en sorte qu'on peut continuer à vivre ici. Et on ne partira que si la situation devient catastrophique. Mais pour l'instant, c'est tout à fait hors de question.
Mais c'est un sujet qui a été que vous avez évoqué et que d'autres ont évoqué chez eux, vous avez l'impression?
Oui, bien sûr, mais je pense que j'ai des voisins et qu'ici, je vois pas de gens, on arrive à savoir si les gens sont là, s'il y a la voiture devant la maison. C'est simple, ça paraît idiot, mais c'est ça. Mais j'ai pas l'impression, dans ma rue, dans la ville, j'ai pas l'impression que ça a changé. Les gens n'ont pas tellement changé, sont toujours présents. Je n'ai pas vu, de gens, de messages de gens qui disaient, on s'en va 3 semaines, 1 mois, 2 mois, on va du côté de Tel Aviv, etc. Non, les gens sont partis en vacances. J'ai des amis qui sont partis à l'étranger, qui sont revenus, et là voilà, leur vie continue. Il y a des professeurs d'école, il y a des parents, leur vie continue. Voilà, je ne comprendrais pourquoi partir. Pourquoi partir tant qu'on ne nous demande pas de partir, parce que ça serait grave. Pour l'instant, la situation ne se prépare à ça. Voilà. Et j'espère que ça restera comme ça.
Espérons-le, le temps qui nous est imparti tout touche à sa fin. Je vous remercie. J'espère effectivement que nos auditeurs auront compris un peu la complexité de la situation pour la population qui essaye de vivre normalement dans une zone de conflit. Terminer, je reprendrai cette citation d'un leader politique, Yair Golan, pour ne pas le nommer, qui a déclaré très récemment, hier ou avant-hier, que le renouveau du sionisme, ce n'est pas la construction d'une nouvelle synagogue sur le mont du Temple, mais ça serait plutôt la reconstruction du nord du pays que nous avons perdu. La citation n'est pas exacte mot à mot, mais c'est effectivement un des objectifs qui devrait être très important actuellement, parce qu'il y a une partie du pays, au nord et au sud, qui est un peu en perdition.
Exact.
Il me reste à vous remercier, à souhaiter une bonne semaine à nos auditeurs que nous retrouverons pour une prochaine émission de Chronique pour la paix. Au revoir Yann et merci encore.
À bientôt, au revoir, plaisir.